L'économie américaine connaît des difficultés croissantes. Le système est mis en péril par deux facteurs. Premièrement, les taux d'intérêt augmentent et avec eux, le montant des mensualités des prêts. Ces derniers ne sont pas accordés à taux fixe. Deuxièmement, le prix des logements baisse drastiquement en quelques mois. Ainsi, les emprunteurs qui voulaient vendre leur maison afin de rembourser leurs dettes ne peuvent pas le faire, ou alors à perte. Très vite, c'est le défaut de paiement. Ce phénomène qui se généralise va provoquer une grave crise de liquidité sur le marché boursier. La volatilité de la bourse, conjuguée aux facteurs que je viens d'évoquer, provoque l'éclatement de la bulle. C'est le déclenchement, en 2008, de la crise des subprimes. 15 septembre 2008, choc mondial. La quatrième plus grande banque d'investissement du pays s'écroule. Lehman Brothers dépose le bilan. C'est la plus importante faillite de l'histoire des États-Unis. Des centaines de milliards d'actifs participent à l'aggravation de la crise. L'économie mondiale entre en récession. Les investisseurs veulent récupérer leur mise. Toutes les structures financières, tous les gestionnaires de fonds sont attaqués par ce phénomène qui se globalise. La crise de confiance ne cesse de creuser le fossé d'une situation qui semble impossible à stopper. Entre titrisation poussée à l'extrême et attribution de prêts risqués, la vie de millions de personnes bascule en l'espace de quelques semaines. Ils seront nombreux à en subir les frais et à plonger dans la précarité la plus totale pour les plus modestes des épargnants. Mais ce n'est pas tout. C'est tout le système qui s'effondre et qui emporte de grandes institutions vers la banqueroute. Lehman Brothers en tête. Et l'homme qui valait plusieurs dizaines de milliards, Bernard Madoff, ne va pas échapper à la règle. Dès le début de sa carrière, dès les premiers temps de sa réussite, Bernard Madoff est un ovni à Wall Street. Ceux qui tiennent les cordons de la bourse et qui s'amusent à spéculer sur une montagne d'argent sans cesse plus importante ont souvent le même profil. Ils viennent de milieux aisés qui ont pu leur offrir les diplômes les plus brillants. Bernie, lui, est un gamin des milieux populaires, descendant d'immigrés juifs européens. Il s'est fait avec ses mains et avec sa tête. En 1938, dans le Queens, il a développé très tôt une capacité à entreprendre. Il enchaîne les petits boulots, notamment celui de maître nageur à Long Beach, afin d'accumuler un petit pactole. Malgré un diplôme en sciences politiques qu'il décroche en 1960, il abandonne la suite de son cursus. C'est la même année que ses petits boulots lui permettent de lancer sa carrière de financier. Avec 5000 dollars, il fonde son entreprise de placement. Il a alors 22 ans. Bien. Jusqu'ici, rien de suspect. Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC, est une petite structure qui permet à ses clients de profiter de trading d'actions à bas prix. Ce procédé, plus connu sous le nom de penny stocks, permet d'obtenir un retour sur investissement qui peut s'avérer payant. À la condition que votre conseiller en placement soit un gars avec de bonnes intuitions. Bernard s'est marié en 1959 avec Ruth. Et pour l'entrepreneur autodidacte, ce mariage d'amour va se transformer en véritable opportunité de business. La bonne aubaine, son beau-père est un comptable assez influent et respecté. Cela lui permet d'attirer ses premiers clients fidèles. Durant toute la décennie 1960, Madoff va faire grossir son affaire, notamment parce qu'il dispose d'une vision originale, unique. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à le qualifier de visionnaire. introduit par ses connaissances et surtout par son beau-père. Bernie Madoff devient petit à petit l'un des membres les plus influents de Wall Street. À compter de 1990, lorsqu'il devient président non exécutif du Nasdaq, son coup d'œil et sa politique sont loués partout dans le quartier des affaires à New York. Insaisissable, discrète, sa parole est précieuse. Et écoutez, sous sa présidence, le Nasdaq bascule dans une nouvelle ère, celle de l'informatique. Les transactions se font dorénavant via des serveurs. Il devient le plus vaste marché financier d'actions électroniques au monde. En somme, Madoff est celui qui permet à l'institution de se moderniser. Pour imaginer au mieux le développement de l'Empire Madoff, il faut se rendre à Turtle Bay, au numéro 885 de la 3e avenue. Le Lipstick Building est l'un des symboles les plus éloquents de la puissance du monde de la finance new-yorkaise. 34 étages, près de 140 mètres de haut, une forme unique en son genre. L'immeuble trône sur la grosse pomme depuis la fin des années 80. Bernard Madoff y installe ses bureaux en 1993, lorsqu'il quitte le Nasdaq. Ses locaux sont le miroir de sa réussite, l'un des instruments de sa prise de pouvoir, de la confiance qu'il renvoie aux investisseurs. Un homme qui travaille là ne peut être que fiable et honnête. Son cabinet de trading et ses fonds d'investissement sont des machines tellement bien huilées que rien ne semble suspect, absolument rien. Madoff engrange toujours plus d'argent. En 1996, il devient membre du Palm Beach Country Club et s'ouvre de nouvelles portes. Cette organisation, on ne peut plus particulière, dispose d'un ticket d'entrée à 400 000 dollars, rien que ça. Cet organe philanthrope est un formidable vecteur d'inclusion et de développement pour Madoff. Avec cette appartenance, il s'ouvre toutes les portes des portefeuilles les plus garnis de Floride. Ah, Bernard est intelligent, brillant même. Son air bonhomme et ses manières amicales attirent confiance et sympathie. Son entreprise de trading grossit tellement qu'elle attire des stars du showbiz et du milieu financier, qui lui servent pour son fonds d'investissement développé discrètement en parallèle. Sans cesse, c'est la course au plus haut rendement qui est recherchée. La promesse des retombées alléchantes convainc les plus sceptiques des investisseurs. Madoff promet un retour sur investissement qui dépasse les 10%. Afin d'attirer de nouveaux clients pour son fonds, il arpente les quartiers chics de Palm Beach. Ce lieu est extrêmement prisé par les financiers de Wall Street et plus encore, par la communauté juive américaine qui lui fait totalement confiance. Madoff est tellement bien introduit que son surnom, Uncle Bernie, lui permet d'avoir accès à tous les palaces et à toutes les fêtes de la bonne société floridienne. C'est là qu'il lève le plus d'argent. Rapidement, notre homme n'a même plus besoin de faire sa pub. Le bouche à oreille fonctionne parfaitement et permet à l'argent d'affluer jusqu'à lui. Sur les cours de golf, dans les fêtes, le long des plages de sable fin, tous ces investisseurs font sa publicité auprès d'autres. Rencontrer Bernie et intégrer son fonds de placement devient bientôt un privilège recherché. Les services qu'il propose sont exclusifs et, de ce fait, permettent à ses clients de se sentir on ne peut plus important. Le privilège chez Madoff est un filet. Le fonds Madoff ne paraît pas suspect pour ces gens fortunés. Et la popularité de Bernie devient exponentielle. C'est d'autant plus le cas que celles et ceux qui veulent récupérer leur argent peuvent le faire facilement, prenant au passage des intérêts absolument astronomiques. Sa société de trading bascule dans une autre dimension. Rapidement, près de 200 employés participent à son développement. Le fonds d'investissement géré en parallèle est plus discret, plus secret. Madoff trie sur le volet celles et ceux qui peuvent y investir. Sa fortune personnelle est telle qu'il collectionne des propriétés dans le monde entier. Au début des années 2000, elle s'élève à plus de 800 millions de dollars. Lorsqu'on parle de Madoff, c'est pour évoquer son sérieux, son incroyable réussite et plus encore, sa probité. Les choses vont continuer ainsi des dizaines d'années, plus de 20 ans, avant que l'engrenage infernal ne se déclenche. En cause, la crise de 2008, le plus grand séisme subi par Wall Street dans son histoire. Et puis vient la matinée du 11 décembre, celle qui, en un claquement de doigts, fait tout basculer. Dans ce contexte incertain et volatile, l'arrestation de Madoff interpelle d'emblée la presse et les investisseurs, petits et gros, qui ont tout misé chez lui. Et il y a de quoi. Ils sont pas au bout de leur surprise. Rapidement, tous ne veulent qu'une chose. La peau de Bernard Madoff. Pourquoi ? Vous allez le comprendre. C'est un Bernard Madoff aux abois que nous retrouvons. Il est en compagnie de sa famille, sa femme et ses deux fils, chez lui, dans son magnifique penthouse. Nous sommes la veille de son arrestation tonitruante, et le moins que l'on puisse dire, c'est que quelque chose cloche dans sa posture, dans le timbre de sa voix aussi qui semble éteint. Ses fils sont des habitués du monde de la finance. Il travaille d'ailleurs pour sa société de trading. Interloqués, les deux jeunes hommes se regardent. Ils n'ont jamais vu leur père dans cet état. Lui qui, d'accoutumée, est sans cesse moteur dans les discussions et les choix, lui qui, mieux que quiconque, semble comprendre l'univers de la bourse, lui qui, enfin, est l'un des seuls à surnager dans cette crise sans précédent, semble perdu. Et pour cause, dans ce silence assourdissant, il s'apprête à leur avouer une vérité impensable. Les jambes croisées dans un fauteuil de cuir, ses fils et sa femme en face de lui, Bernard Madoff a les mains jointes. Lorsqu'il ouvre la bouche, ses interlocuteurs ont l'impression qu'il s'apprête à sauter dans le vide. Parfois, la vérité peut donner le vertige. Le fonds d'investissement, c'est une fraude. Il n'y a pas d'investissement. En face de lui, ses fils esquissent un sourire gêné. Marc, l'aîné, prend la parole le premier. Mais de quoi tu parles ? Bien entendu qu'il y a des investissements. Ils sont sur tous les bilans. Andrew, le cadet, a sitôt fait de le rejoindre. J'ai vu les factures. Alors c'est quoi ton problème ? En face d'eux, les yeux tournés vers ses chaussures, Madoff répond en boucle la même chose. Ce sont des faux. Je les ai fabriqués. Sentant que ses enfants et sa femme ne semblent pas convaincus, Bernard enfonce le clou. Tout est faux. Tout ça, c'est qu'une énorme pyramide de Ponzi. Sa femme, confuse, demande avec empressement ce que c'est, cette fameuse pyramide de Ponzi. autant que d'un homme. Et mauvaise nouvelle, c'est Bernard Madoff. Nous sommes le 12 mars 2009, trois mois, qu'une chape de plomb est tombée sur la tête du monde entier et que Bernard Madoff a avoué une fraude comme l'histoire américaine en a rarement vu. Aujourd'hui, l'escroc est présenté devant un juge du tribunal fédéral de New York. Ils sont reprochés 11 chefs d'accusation, plus graves les uns que les autres. L'enjeu est de taille. Malgré ses aveux au FBI, Madoff est en droit de plaider non coupable, et donc de vivre un procès qui s'annonce on ne peut plus explosif. La pression est à son comble dans la salle d'audience. Le crépitement des flashs, autant que l'immobilisme de la scène, confère au moment une tension extrêmement élevée. Bernie Madoff, les yeux dans le vague, attend qu'on lui donne la parole. D'un air sévère, le juge toise le prévenu. La situation dans le pays est toujours aussi catastrophique et la crise financière, bien qu'il y soit étranger, est incarnée dans l'opinion par un homme, Bernard Madoff. Lorsqu'elle s'est saisie de son cas, la presse l'a vilipendée à la hauteur de ses méfaits. Dans les rues de New York, on le surnomme même le Joker. La une de presse qui le grime avec le maquillage de l'anti-héros de Batman est devenue si célèbre qu'elle a été écoulée en quelques heures. Les Américains veulent des réponses, tout comme les victimes de son système pyramidal. Va-t-il plaider non coupable et offrir sur un plateau un procès à l'opinion? Le juge, solennellement, lui pose la question. En un mot, Bernard Madoff se charge de réduire à néant les aspirations de celles et ceux qui voulaient le voir se défendre devant une cour de justice. Coupable. Le juge acte la décision. Son coup de marteau entérine le choix de l'accusé. De procès, il n'y aura pas. L'escroc, après ses aveux au FBI, plaide donc coupable des 11 chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Aux États-Unis, cela signifie une chose plus que tout autre. Il n'y aura pas de procès. Seulement une audience de condamnation qui, dans le cas de Madoff, se tient le 29 juin 2009, soit moins d'un an après son arrestation. Le juge qui lui fait face, Denis Shin, est intransigeant. Malgré les regrets affichés par le prévenu, la sentence est lourde, très lourde. Le criminel est condamné à une peine de 150 ans de prison. Il finira donc son existence derrière les barreaux. Malgré sa mise en détention, bien des aspects de l'affaire ne peuvent être creusés. Comment comprendre l'une des plus grandes fraudes de l'histoire sans un moment judiciaire comme seul un procès peut offrir? Sans cela, la justice ne peut pas établir les complicités inhérentes à l'arnaque, ni même creuser le système Madoff pour mieux le décortiquer. Au-delà de son seul rôle, ce sont les sociétés d'investissement avec lesquelles Madoff a travaillé qui sont à pointer du doigt. Savait-elle que tout le système n'était qu'une vaste supercherie? Pour certaines d'entre elles, peut-être bien. À ce stade, une question parmi toutes les autres demeure. Qui est vraiment Bernard Madoff? Premier des éléments à mettre en exergue lorsqu'on évoque sa personnalité, c'est sa capacité à manipuler les gens qui lui font face, de manière extraordinaire. En rendant ses interlocuteurs spéciaux, privilégiés, Bernie attire à lui toujours plus d'argent et toujours plus de grandes fortunes. Chaque fois que son système manque d'être découvert, c'est notamment le cas en 2004, il se permet de mettre en avant sa prétendue probité devant les instances, sans jamais se démonter. D'autres alertes ont été ignorées. La première en 2001, lorsqu'une journaliste publie un article faisant référence à un probable délit d'initié en épluchant les rendements exceptionnels de Madoff. Son travail reste lettre morte. Le fraudeur a mis en place son piège en arnaquant des gens qu'il connaît en premier chef. Amis, membres de la communauté juive et même sa propre famille, tout le monde y passe. C'est sa grande force. Il est capable de convaincre celles et ceux qui sont les plus proches de lui. Nous l'avons vu. C'est notamment le cas à Palm Beach. Cette proximité des investisseurs n'est pas un détail à prendre à la légère, bien au contraire. C'est, là encore, une technique de manipulation rodée. En laissant croire à ses victimes qu'une prise de contact avec lui valait de l'or, Madoff les rendait spéciales. Assez pour qu'elles n'hésitent pas longtemps, pour la plupart, à placer chez lui des sommes astronomiques. À Palm Beach, beaucoup rêvent de rentrer dans le fonds Madoff. Il intègre dans son cercle de nombreuses veuves qui n'ont pas envie de gérer directement leur fortune. Mal l'on a pris. Certaines de ses victimes ont perdu des centaines de millions de dollars.